La parole de Dieu est la prière pour équilibrer la vie. Nous ne cessons de faire notre la prière du jubilé que je reprends. Père céleste, en ton Fils, Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle lorsque les puissants du mal seront vaincus et ta gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire. Nous pouvons chanter « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui nous manque toujours comme pèlerins d'espérance? Ce qui nous manque, c'est la miséricorde de Dieu qui fait toutes choses nouvelles. C'est le pardon, la réconciliation, la conversion. Ces mots évoqués ce matin avec cette rencontre de Jésus et de Zachée. Il faut que je demeure chez toi. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le pardon, mais aussi le pain. Le pain pour la route. Et quand nous vivons le jubilé, il y a à la fois cet accueil de ce que le Seigneur nous donne, vraiment pour vivre, en tous les sens du mot, hein, c'est-à-dire des moyens de vivre, des raisons de vivre, le goût de vivre, et en partage avec tous ceux et celles qui aujourd'hui, dans le monde, manquent de moyens de vivre, de raisons de vivre, et pour beaucoup aussi, du goût de vivre, l'Eucharistie. Eh bien, il y aura ce temps, ce soir, là, dans ce que je vais vous partager, oui, sur l'Eucharistie, le récit de l'institution. Voilà, nous prendrons le temps d'entendre ce texte en Saint-Luc, au chapitre 22, versets 1 à 30. Nous savons, et c'est très important, hein, l'Évangile, c'est pas simplement des pages qui se tournent. L'Évangile, c'est une proclamation. Et la proclamation, elle n'est pas d'hier, elle est d'aujourd'hui. C'est cette parole de Dieu, ce chemin incessant de l'Évangile. Et alors, demain aussi, demain matin, ce sera un deuxième entretien sur l'Eucharistie. Ce mystère de l'Eucharistie. Je pense que c'est important pour nous, de même que ce que j'ai pu dire par rapport aussi au sacrement du pardon. En effet, nous vivons des situations souvent extrêmement nouvelles. Je pense, hein, communautés religieuses, même les communautés monastiques. Hein. Bon, c'est vrai, il y a eu la période du Covid, mais après, on n'a pas la messe tous les jours. Et pourtant, la vie, elle est eucharistique, notre vie. Et c'est vrai que c'est pas non plus une forme d'arrangement, non, c'est vivre, donner sens à ce que l'on vit, à ce qui nous est donné. Mais ça demande, je crois, aussi une incessante conversion, enfin, à l'accueil de la parole de Dieu, à tout ce que ça représente aussi au plan du partage en Église. Alors, oui, premier temps, ce récit de l'institution. Je vais le lire dans son ensemble, et puis voilà, ce sera pour que cette lecture, eh bien, voilà, en chacune de vos vies, dans cette page de la vie, accueille ce que le Seigneur dit. Je pense toujours à ces mots qu'on trouve dans une hymne, c'est pour la fête des pasteurs. Les volontés de Dieu sont accomplies quand tout devient Eucharistie. C'est pas l'Eucharistie d'un moment, c'est toute une vie. Et là, dans ce récit, il nous est dit le sens que le Seigneur donne. On le reprendra demain avec, évidemment, passage incontournable de Jean 6. Mais j'aime entendre ou réentendre ces paroles pour aujourd'hui avec ce petit livre du pape François. Lettre apostolique sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Desiderio, desideravi, j'ai désiré d'un grand désir. Et vous verrez, dans le récit de l'institution, c'est ces paroles du Seigneur qui nous aident à entrer plus profondément dans le mystère. J'ai désiré d'un grand désir, dit le Christ, manger avec vous cette Eucharistie. Vivre avec vous cette Eucharistie. Le pape dit ceci, pape François. Bon, c'est récent, mais ce texte a été assez marquant, même l'autre jour, là, quand des laïcs en mission ecclésiale du diocèse de Nantes m'avaient demandé d'animer deux récollections, mais c'était chaque fois pour un groupe différent. Et il y avait en particulier fait référence à ce texte qui a été donné à Rome le 29 juin 2022. Et vous savez dans quelles circonstances aussi. C'est avec tout ce qui peut y avoir là, de tension, de division par rapport à l'Eucharistie. Et souvent dans les visites ad limina, c'est-à-dire les visites des évêques, et même des évêques français à Rome, il y avait cela. Ah, ce qu'on a senti, bon. Vous savez, par rapport, bon, rite de la communion, par rapport à tant d'autres choses, hein, ces tensions douloureuses, hein, et dire, mais c'est vrai, on veut s'accueillir quand même, comprendre, mais il y a quelque chose, hein, qu'on se doit de vivre ensemble, qu'on est appelé à vivre ensemble. Le pape dit ceci, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, dit le Christ. Ces paroles de Jésus, par lesquelles s'ouvre le récit de la dernière scène, sont la fissure par laquelle nous est donnée la surprenante possibilité de percevoir la profondeur de l'amour des personnes de la Sainte Trinité pour nous. C'est une ouverture étonnante. Pierre et Jean avaient été envoyés pour faire les préparatifs nécessaires pour manger la Pâque. Mais à y regarder de plus près, c'est toute la création, toute l'histoire qu'allait finalement se révéler comme l'histoire du salut, une grande préparation à ce repas. Pierre et les autres se tiennent à cette table, inconscients et pourtant nécessaires. Tout don, pour être tel, doit avoir quelqu'un disposé à le recevoir. Mais dans ce cas, il y a une disproportion immense entre l'immensité du don et la petitesse du destinataire. Elle est infinie, elle ne peut manquer de nous surprendre. Néanmoins, par la miséricorde du Seigneur, le don est confié aux apôtres, afin qu'il soit apporté à tout homme, à toute femme. Personne n'avait gagné sa place à ce repas. Tout le monde a été invité, ou plutôt tous ont été attirés par le désir ardent que Jésus avait de manger cette Pâque avec eux. Il sait qu'il est l'agneau de ce repas de Pâques. Il sait qu'il est la Pâque. C'est la nouveauté absolue de ce repas, la seule vraie nouveauté de l'histoire, qui rend ce repas unique et pour cette raison ultime, non reproductible, la dernière scène. Cependant, son désir infini, qui était et reste son projet initial, ne sera pas satisfait tant que tout homme de toute tribu, langue, peuple et nation n'aura mangé son corps et bu son sang. C'est pourquoi ce même repas sera rendu présent jusqu'à son retour. Et le pape ajoute que là, quand le Seigneur a institué l'Eucharistie, l'invitation, ce n'était pas simplement pour ceux qui étaient autour d'eux, c'est pour que tous ceux qui vivent, célèbrent, reçoivent l'Eucharistie, se considèrent comme des invités. Avant notre réponse à l'invitation du Seigneur, il y a son désir pour nous. Très important, cela. Vous savez, ça peut arriver, hein. Surtout quand on est peut-être un peu trop gâté par rapport à l'Eucharistie. Ouais, oui, ouais. Encore, comment, puis je me sens pas tellement disposé. Peut-être se dire, je me suis habitué, j'ai pas tellement faim de l'Eucharistie. Mais ce qui compte, hein, c'est la faim du Seigneur. Le Seigneur a faim de nous. Le Seigneur nous désire. Il est certain que toute réception de la communion au corps et au sang du Christ a déjà été voulue par lui, le Christ, lors de la dernière scène. Alors, écoutons. Saint Luc, chapitre 22, versets 1 et suivants. La fête des pains sans levain, qu'on appelle Pâques, approchait. Les grands prêtres et les scribes cherchaient la manière de le supprimer, car ils craignaient le peuple. Et Satan entra en Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12, et il alla s'entretenir avec les grands prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Eux se réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour le leur livrer à l'écart de la foule. Vint le jour des pains sans levain, où il fallait immoler la Pâque. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez, nous préparer la Pâque, que nous la mangions. » Mais ils lui demandèrent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Et il leur répondit, « À votre entrée dans la ville, voici que viendra à votre rencontre un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au propriétaire de cette maison, « Le maître te fait dire, où est la salle où je vais manger la Pâque avec mes disciples ?» Et cet homme vous montrera. La pièce du haut va s'égarner. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent, trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Et quand ce fut l'heure, il se mit à table, et les apôtres avec lui, et il leur dit, « J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Bon, c'est comme le repas juif, c'est-à-dire que tout d'abord, celui qui préside prend une coupe. Il reçut alors une coupe, et après avoir rendu grâce, il dit, « Prenez-la, partagez entre vous, car je vous le déclare. Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Puis il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fit de même après le repas en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. » Mais voici, la main de celui qui me livre se sert à cette table avec moi, car le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme, par qui il est livré. Et ils se mirent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Puis c'est pas terminé. Ils en arrivèrent à se quereller. Alors évidemment, l'évangile, nous savons bien, hein, c'est pas un reportage. L'évangile, c'est la proclamation. C'est des communautés qui l'ont reçu. Et si il y a dans l'évangile et dans chaque texte d'évangile quelque chose de particulier, même s'il y a évidemment hein, une concordance profonde, c'est pour dire voilà, la diversité des lieux. Et pourtant la révélation, elle est là. Jusqu'à la mort du dernier apôtre, ils ont été les témoins, ils ont été inspirés. Et là, quand ils annonçaient, il y avait aussi cette inspiration à toute leur communauté. Alors, si c'est là, c'est pas simplement parce que, bon, un texte, et puis on a ajouté des morceaux. C'est qu'il y a une signification. Le don est tellement grand qu'ils ne peuvent pas y croire d'une certaine façon. Alors, chacun défend son morceau. Ils en arrivèrent à se quereller sur celui d'entre eux qui leur semblait le plus grand. Je dirais, c'était bien le moment. Vous savez, c'est comme une fête de famille, tout se passe bien, puis après on parle d'héritage, et puis, voilà. Ça se passe beaucoup moins bien. Et il leur dit, les rois des nations agissent avec elles en seigneur. Ceux qui dominent sur elles se font appeler bienfaiteurs, pour vous rien de tel. Mais que le plus grand parmi vous prenne la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Lequel, en effet, est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Or moi, je suis au milieu de vous, à la place de celui qui sert. Puis toujours dans le même texte, c'est pas glorieux quand même, hein, leur réaction. Et pourtant, les apôtres, c'est pas des fanatiques. Les apôtres, ils disent, mais vous savez, nous, on était dépassés, on savait pas. Alors qu'est-ce qui est dit aussitôt? Vous êtes ceux qui ont tenu bon avec moi dans mes épreuves. Oh, ben ouais. Quand on voit ce qui va se passer par la suite. Et moi, je dispose pour vous du royaume comme mon père en a disposé pour moi. Aussi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Eh ben, si nous sommes là, nous, c'est à cause du témoignage de ces hommes avec leur fragilité. Mais ils ont laissé passer quoi, quelque chose qui ne pouvait pas venir d'eux-mêmes. C'était tellement grand. Ils n'avaient pas cru. Ça les avait renvoyés à tout ce qu'il y a en l'homme, quoi, de volonté, de s'appartenir à lui-même, de dominer sur les autres. Tellement que quand Paul, et je le cite dès maintenant, mais c'est pas une référence, si vous voulez, bon, simplement... On l'a dans la tête. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 17 à 27. Quand Paul parlera de l'institution de l'Eucharistie, eh bien, qu'est-ce qu'il dira, Paul, à propos, justement, de l'Eucharistie? Il dira ceci, c'est que lui-même, il a reçu l'Eucharistie. Lui-même, il a reçu cette tradition. Paul n'était pas là, et il dira ceci, quand il s'adressera justement aux Corinthiens, il dit, mais qu'est-ce que vous faites du repas du Seigneur? Vous savez, ce repas, c'était les agapes, c'était le repas. Puis vous venez, puis il y en a qui vraiment ont de quoi manger, ils sont pifres, puis les autres n'ont rien. Et puis vous célébrez le repas du Seigneur, mais vous faites mentir ce que vous célébrez. Et il dit, mais non. Méprisez-vous l'Église de Dieu? Voulez-vous faire affront à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous louer? Non, sur ce point, je ne vous loue pas. Moi, voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Paul, le grand Paul, apôtre, associé aux apôtres, hein. Lucas a un itinéraire tout à fait particulier, hein. Une conversion. Eh ben, voilà, ce qu'il dit, ce qu'il fait, il l'a reçu. Et il dit, voilà, le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. Alors, le texte lui-même. Eh bien, tout d'abord, on peut dire ceci. Jésus arrive au bout du chemin. Le chemin qu'il a parcouru. Puis nous méditerons sur, au cours des derniers jours de la retraite, évidemment, la passion, la mort, la résurrection du Christ, l'envoi, Marie au pied de la croix. Mais là, restons justement là, à ce temps, à cette étape. Jésus achève le chemin qu'il a parcouru et qu'il a fait parcourir aux siens jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est caractéristique parce que, vous savez, là, c'est précédé quand même par tout ce chemin parcouru, mais par trois annonces de la Passion. Il y a eu trois annonces de la Passion. Jésus, première annonce, c'est après la profession de foi de Pierre. C'était une profession de foi. Il disait juste, mais il n'accepte pas la révélation. C'était avec ses conceptions à lui qu'il voyait la route du Seigneur. Comme Satan au moment de la tentation. Enfin, première annonce de la Passion. La deuxième, à quel autre moment? Après la transfiguration. C'était un moment tellement extraordinaire. Mais voilà, on va dresser trois tentes. Hein. C'est-à-dire, on va s'installer ici. Hein. Puis après, bon, il faut redescendre dans la plaine. Monte à bord, il faut aller bon, vers après, bah, la réalité, tous les jours. Et puis, à la dernière annonce de la Passion, ce sera après la rencontre de l'homme riche. On Saint-Luc, au chapitre 18, verset 31, et il est dit, « Mais eux n'y comprirent rien, cette parole leur demeurait voilée. » Et pourtant, déjà Jésus avait parlé de son désir. Regardez par exemple ceci, hein. C'est pas pour être encombré de citations, non mais simplement pour le repérer, hein. C'est en Saint-Luc. En Saint-Luc, ce passage, hein, en Saint-Luc au chapitre 12, verset 50, hein, quand Jésus dit « C'est un baptême que j'ai à recevoir, comme je désirerais qu'il soit déjà accompli. » Le désir du Christ, ce désir du Christ, ce désir qu'il habite, hein, quand il va à la rencontre, comme on l'a évoqué avec Zachée, bon, avec d'autres aussi. Jésus est avec les siens jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il les garde en respectant leur liberté. Il y en a un qui va le trahir, un autre qui va le renier, d'autres qui vont s'enfuir. Puis il y a le disciple bien-aimé. Et puis Marie. Marie qui conservait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Voilà. Et alors, dans ce récit, il y a un mot très important. C'est livré. Il a été livré. C'est le mot, j'allais dire, le plus significatif de la Passion. Oui, il y a les souffrances du Christ. Elles sont réelles. Il ne faut pas les minimiser. Mais il y a le fait qu'il a été livré. Mais en Saint Jean, il dit, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Il est livré et il se donne librement. C'est beau, hein, ces mots tout simple et si fort dans la prière eucharistique numéro 2, qu'on prend le plus souvent avant d'être livré et d'entrer librement. Il a été livré. Lui, le juste. Lui, l'innocent. Lui qui vraiment a passé en faisant le bien, il a été livré. On se dit quelquefois, non, on n'ira pas jusque-là quand même. Hein, à porter la main. Sur quelquefois des grands témoins qu'il y a dans l'histoire, j'allais dire, des témoins de la paix, des témoins assassinés. Bon. Mais lui aura aussi toute cette mise en scène, cette passion du Christ. Et de cette mort, Jésus va faire un geste inouï, inouï. Celui qui est livré, eh bien, se livre librement. Ce geste devient le sien. Il n'est pas comme imposé, comme s'il ne pouvait pas faire autrement. Et il dit, j'ai désiré d'un tel désir. Alors regardez dans le récit, cette liberté du Christ étonnante, hein, l'initiative. Bon, c'est la Pâque, hein, mais quand même, hein, ils ont plein de choses dans la tête. Hein, les apôtres, ils se disent, mais où il va? Mais qu'est-ce qui va arriver? Et puis, c'est les grandes fêtes de la Pâque. Et Jésus dit, mais est-ce que vous avez pensé, hein? Est-ce que vous avez pensé à la Pâque? Il leur dit, ben voilà, faut préparer la Pâque. Et il les envoie. Le jour du pain sans levain, où il allait immoler la Pâque, vint. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, que nous la mangions. Et cette préparation, ah ben oui, c'est toute l'initiative du Christ, hein. Ils vont pas n'importe où, ils vont à un endroit. Préparer, comment? Bon, on n'entre pas dans le détail souvent, vous savez, dans l'Évangile, on dit l'essentiel. Toujours est-il qu'il y avait un lieu. C'était pas comme ça, j'allais dire, à l'inconnu. Il était inconnu pour eux, mais Jésus, il dit, ben voilà, vous trouverez quelqu'un, un homme. Bon, un homme qui porte une cruche, c'est pas fréquent, hein. Plutôt les femmes qui portaient les cruches. Et alors, bon, est-ce qu'il y avait ce signe pour, vous savez, exégétiquement, hein, c'est vrai, c'est bon, on essaie d'interpréter et de comprendre. Mais toujours est-il, voilà, suivez cet homme jusque dans la maison où il entrera. Et vous direz au propriétaire de la maison, le maître te fait dire où est la salle où je vais manger la Pâque avec mes disciples. Cet homme vous montrera la pièce d'en haut. Ils trouvèrent tout. Ils trouvèrent comme il leur avait dit, ils préparèrent la Pâque. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Le Christ, cette liberté. Cette liberté qui va transformer l'événement. C'est-à-dire que ce qui pour les pécheurs devient le geste vraiment de mort, faire taire la parole, eh bien devient le geste par lequel le Christ donne sa vie. Là où les autres donnent la mort, le Christ donne sa vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le désir du Christ, le Fils bien-aimé, qui traduit pleinement le désir du Père. Jamais l'homme ne pourra empêcher le Fils de l'homme de donner sa vie. Ouais, Romains, qu'on a vu l'autre jour, hein, fin du chapitre 8, là. Qui nous séparera l'amour du Christ? Il y avait tout pour séparer. Et en même temps, voilà, ceci est mon corps et ce geste, jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire que en allant jusqu'au bout de l'amour, Jésus va du même coup jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'accomplissement des temps. C'est pour ça que le pape peut dire, voilà, ce repas, ah ben oui, le Christ, une fois pour toutes, mais pour que chacun soit invité à ce repas. Il y a là quelque chose d'extrêmement, je veux dire, déroutant d'une certaine façon, mais c'est le chemin du Christ. Alors c'est vrai, c'est le sacrifice, hein, sacrifice. Et j'allais dire là, dans toutes les traditions, hein, l'Eucharistie, il y a toujours le sacrifice et l'alliance. Mais le mot sacrifice fait peur. Il est piégé quelquefois, ce mot. Encore quelqu'un, il n'y a pas si longtemps, me dire ça. Oh là là, quand on rétablit ce mot sacrifice, quand même, bon, comment les gens le comprennent? Et c'est vrai, c'est difficile. Difficile à comprendre. C'est comme aussi, vous savez, par rapport à l'offrande. Bon, quelquefois, on présentait un peu l'offertoire comme, voilà, le Christ se donne, puis nous, on lui donne. Mais non, à travers ce qu'on donne, c'est notre vie qui se donne. à lui pour être relié à sa propre offrande. C'est le Christ qui offre. C'est le Christ qui donne tout. Mais, j'allais dire, par le geste que nous faisons, eh bien voilà, nous entrons dans le don du Christ. C'est pas comme, bon, contrepartie, on lui donne quelque chose. Non, la partie, elle est beaucoup plus importante qu'une contrepartie. C'est-à-dire que voilà, c'est, comme dira saint Paul, moi, ma vie, ben je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Il m'a aimé et il s'est livré pour moi. C'est pour cela que c'est l'alliance, une existence de disciple hein, qui désormais sera toujours la reliée à ce don total du Christ. On ne se fait pas disciple. On devient disciple. On ne cesse de devenir disciple. Vous savez, quand là, à l'ordination, on remet le pain et le vin entre les mains de celui qui l'a été ordonné. L'évêque dit, recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Alors, comme ça, une première compréhension, c'est de dire, ben, votre vie, hein, ce sera une vie aussi de sacrifice. Vous aurez à vous donner vous-même. Oui, c'est vrai. Mais on ne peut se donner soi-même qu'en se recevant sans cesse du Christ. En accueillant le don du Christ qui fait que notre vie est donnée. C'est pour cela aussi que, bon, j'allais dire, nous avons faim de l'Eucharistie et que, bon, mais c'est pas simplement, bon, des Eucharisties ajoutées les unes aux autres, c'est, voilà, c'est la façon dont le Seigneur, quoi, se donne. La façon dont le Seigneur nous fait entrer dans ce mystère. Conformez-vous au mystère de la croix du Christ. Dans ta réponse à l'appel de Dieu et toute chacune de nos vocations, il n'y a pas de vocation supérieure les unes aux autres. Mais voilà, chacune est particulière, chacune est nécessaire. Et quand le pape disait là, à ses prêtres du Gabon, que la première fidélité pour le prêtre, c'est de croire à son propre mystère, mais il y a quelque chose là qui est extrêmement éclairant. Parce que, bah, avec les faiblesses, avec les limites, attends, mais le Seigneur te dit qu'il y a du prix à ses yeux, mais c'est dans la mesure où tu mesures aussi. Tu mesures, mais tu n'auras jamais fini de le mesurer, l'infinité de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Voilà, j'allais dire, l'essentiel. Et cela, on n'a jamais fini de le comprendre et de l'approfondir. Corps livré, sans verser. Alors, simplement, mais là, en quelques mots, quand le pape a écrit cette lettre, comme je le disais au début, c'est parce que quand même on souffre dans l'Église, hein. Souffre dans l'Église quand on dit mais vous avez qu'est-ce que vous avez fait l'Eucharistie ça plus c'est plus le sens du sacré même des jeunes hein, quelquefois aujourd'hui peu étonnés hein étonnant qu'ils disent moi je préfère la messe en latin on a le sens du sacré et ça dit quelque chose hein alors c'est vrai qu'on peut tout de suite balayer ça mais l'entendre. Il m'a été donné une grâce particulière. Hein. Je venais d'être ordonné évêque, et puis on confie un vicariat à Paris, le cardinal Lustiger. C'était un lieu où justement on pouvait accueillir, c'était 1988, le schisme de Mgr Lefebvre. Hein. Et il y en avait quelques-uns qui voulaient garder hein, cette tradition hein, qu'ils étaient attachés, mais sans suivre Lefebvre dans son schisme. Vous savez, le schisme, c'est quand il a ordonné des évêques. Et voilà, je célébrais, là, c'était Sainte-Cécile, Sainte-Eugène, là, c'est toujours aussi un lieu où il y a la messe selon la forme extraordinaire pour... Et puis, j'ai dû préparer une autre homélie parce que c'était encore pas les mêmes textes. Bon, préparé, bon... Puis on me dit merci pour ce que vous avez dit, voilà. Je dis, bah, écoutez, moi, ce que je vous dis, bah, c'est ce que je dis dans toutes les communautés où je vais, Puis ils me disent, ah, vous savez, on a souffert, voire quelquefois, enfin, l'Eucharistie, comme ça, qui était profanée, avec du pain qui circulait, avec, bon. Alors, je vous laissais dire. Bon. J'aurais dit souffrance pour souffrance. Vous savez que moi aussi, on disait que je ne croyais pas à l'Eucharistie parce que je m'inclinais profondément devant le tabernacle, mais je ne m'agenouillais pas chaque fois. C'est-à-dire qu'on s'est reproché des choses comme ça les uns aux autres. La souffrance, mais voilà, on est là. Le sacrifice, mais c'est vrai, oui. Maintenant, peut-être il y a des façons de concevoir le sacrifice aussi. C'est pour ça qu'on est un peu gêné quelquefois, vous savez, quand mon sacrifice, on dit, mais comment ça va être entendu? Bon. Eh bien, si le pape l'a écrit, c'est pour que, vraiment, ce chemin, et maintenant, quelquefois, ça exige hein, beaucoup de compréhension, mais en même temps aussi qu'on s'accueille, mais qu'on s'explique. Voilà. Alors, simplement, parce que là, l'essentiel, c'est accueillir. Accueillir ce récit de l'institution. L'accueillir, là, d'un bout à l'autre. Et là, avant de donner, j'allais dire, peut-être la possibilité aussi d'une prière, bien en référence avec ce récit, le psaume, évidemment, ce sera le psaume très classique, hein, 22, le Seigneur est mon berger. Mais je voudrais reprendre simplement là ce que j'ai dit à travers un texte hein, du pape François, c'est dans sa première encyclique, hein, Lumière de la foi. C'était 2013, 29 juin 2013. Il dit ceci, que la foi, elle a une nature sacramentelle, la foi. La foi, si vous voulez, ce que nous croyons trouve tout son sens dans l'Eucharistie. Et l'Eucharistie aussi, elle est inséparable de la profession de foi. Elle est la précieuse nourriture de la foi. Rencontre avec le Christ, réellement présent dans l'acte suprême de son amour, le don de lui-même qui produit la vie. Et dans l'Eucharistie, dit le pape, nous avons là le croisement de deux axes. Alors, vous allez voir, c'est vraiment, je redis un peu d'une autre manière, mais c'est sans trahir le propos du pape. Il dit dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, il y a hier, aujourd'hui, demain. Hier, aujourd'hui, demain. Voilà ce que le Christ a accompli. Et ce qu'il a accompli, c'est aussi toute la Pâque du peuple de Dieu. Hein. Voilà. Il célébrait la Pâque, puis il lui donne un sens totalement nouveau. Voilà, c'est l'histoire. L'histoire. Bon, il y a l'histoire. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dira le jeudi saint ? Le prêtre, si vous voulez, dit ce mot au moment de la consécration, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, l'aujourd'hui de Dieu. L'aujourd'hui de Dieu, c'est pas simplement hier. Bon, il y a hier, il faut aussi comprendre toute l'histoire, mais voilà, c'est aujourd'hui. Et puis c'est demain aussi. J'évoquerai aussi, là, en reprenant les choses, demain d'une autre manière peut-être, mais c'est pour dire, ça y est, ça ouvre un avenir. Quand on entend quelquefois aussi, là aussi, ces mots, hein, je souligne souvent ces mots après le Notre Père, et la bienheureuse espérance, c'est-à-dire que l'espérance, bon, c'est l'espérance que nous vivons aujourd'hui, mais nous sommes en pèlerinage. Ça ne veut pas dire que nous nous désintéressons du monde. Vous savez, c'était quelque chose quand même de fort hein, chez les anciens. Moi, personnellement, j'allais dire, bon, découvert à travers une foi traditionnelle, hein, expression dans l'Église. Mais les gens qui m'ont aidé à découvrir la foi, il y avait quand même deux choses essentielles. Hein. Il y avait une forme de solidarité, même s'il y avait de la chicane hein, dans le monde rural. Bon. Et aussi, il y avait le cimetière. Et les obsèques, c'était, ben voilà, il était arrivé au bout de la route, il était, bon, puis à la maison, ben, c'est vrai, on restait jusqu'au bout avec le corps du grand-père, avec, bon. Eh ben, c'était quelque chose d'important. Ah ben on était intéressé à aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que l'aujourd'hui, ça comptait. Et puis voilà, s'écrivait dans. Mais en même temps, il y avait cette ouverture. On n'avait pas toutes les informations, mais quand même, ça voulait dire quelque chose, hein, que ça débouchait sur. Ben voilà, l'axe de l'histoire, dit le pape, hier, aujourd'hui, demain. Mais aussi, dit le pape, voilà, il y a un axe vertical. C'est-à-dire que dans l'Eucharistie, c'est toute la vie qui est prise. C'est la création, c'est notre vie, c'est tout ce que nous sommes et qui trouve un sens nouveau, qui trouve son vrai sens. Il y a l'axe qui conduit du monde visible vers l'invisible. Oui, c'est ça le mystère. Le mystère, c'est pas le mystère, c'est découvrir que tout ce que nous faisons, quand on chante l'homme est une histoire sacrée, quand nous disons aussi qu'il ne faut pas profaner la création, c'est pas pour sacraliser comme ça n'importe quoi, n'importe comment, mais c'est pour se dire, voilà, c'est là. Dans l'Eucharistie, nous apprenons à saisir la profondeur du réel, a écrit le pape François. Le pain et le vin se transforment en corps et sang du Christ qui se rend présent dans son chemin pascal vers le Père. Ce mouvement nous introduit corps et âme dans le mouvement de tout le créé vers la plénitude en Dieu. C'est tout qui est pris là, la vie, notre vie, avec tout ce qu'il y a de très concret, de lourd, de pesant parfois, mais aussi, on est là. Et l'existence est sacrée, hein. Et en même temps, voilà, hier, aujourd'hui, demain, toute la densité du monde et de la vie qui est prise dans cet amour. Alors le psaume, en quelques mots, trois images. Le Seigneur est mon berger. Je le lis et puis, soyez sans crainte, ce sera 3 minutes. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Eh bien, trois symboles qui sont forts. Le premier, c'est le symbole du chemin. Voilà, c'est le Seigneur qui me précède. C'est lui qui a l'initiative. Disciple. Il me mène vers les eaux tranquilles, me fait revivre. Ça ne veut pas dire que le chemin soit facile toujours, hein. Il y a des ravins de la mort. Il y a des peurs, mais pourtant je suis pas. Oui, j'ai peur, mais je suis pas comme tellement, tellement submergé, anéanti par la peur. Tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Viatique, il est beau ce mot viatique. C'est dommage que souvent les pensées à bon la communion ultime qu'on apporte portée en viatique, hein. Mais le viatique c'est pour tout ça. Chemin, c'est le chemin, reçoit en chemin. Et puis, il y a la table. Ah, la table, on n'est pas tout seul. C'est l'invitation, je reviendrai demain, tu es un invité et tu es un invité invitant, tu es avec d'autres. Ah, puis cette table, elle est sensationnelle, hein. Il y a du parfum et la coupe est débordante. C'est-à-dire que ce n'est pas un repas à la sauvette, hein. Même si c'est tout simple, si c'est, voilà. Mais, voilà, c'est quand même festif. C'est festif. Et puis, c'est pas la tranquillité, hein. Devant mes ennemis. Wow. C'est-à-dire que, bah oui, c'est pas la tranquillité, hein. C'est quand même, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a tout ce qui peut contredire, contrarier. Voilà ce que l'on vit, mais n'empêche. N'empêche, quand on vit ce temps, On n'oublie pas le monde. On voudrait que tout le monde puisse être... On souffre de que ce ne soit pas suffisamment partagé, quoi. Et pas avec les fruits du partage, c'est-à-dire la réconciliation, la paix. Bien sûr qu'il y a des moments où on le sent fortement, hein. Là, c'était ce qu'on s'était donné, nous, comme un peu, pour cette année jubilaire dans la communauté. Il y a l'église ukrainienne qui est pas loin. Puis voilà, on est allé passer, là, 2 heures de prière avec eux, avec, ils célèbrent pas l'Eucharistie tous les jours, mais il y a, le don, des présanctifiés, comme ils disent, c'est-à-dire qu'on communie quand même, là, à ce moment-là. Ben, je me disais, voilà, on était là, les psaumes qu'on chantait, tout ça. Et que, il y avait qui disait, voilà, mais j'ai de la famille là-bas en Ukraine, je sais pas ce qu'ils deviennent, j'ai comment ça va se terminer, c'est, mais voilà, c'était la table du Seigneur. Et puis le troisième, c'est la maison, la demeure. J'habiterai la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est où tu demeures. Ben oui, je suis de quelque part, je viens de tel endroit, je suis plutôt attaché à telle région, ceci, cela. Oh, et puis là, il y a eu des changements dans ma vie. Oh, et puis il y a des lieux quand même, il y a peut-être un lieu qui pour moi reste plus marquant, je sais pas, tout ce qu'on peut se dire. Mais en définitive, notre demeure. Là où vraiment tu peux te dire qu'il y a un lieu où tu demeures. C'est-à-dire, oui, tu passes par divers lieux. Oh, il y a plus difficile, d'autres moins. Mais en qui tu demeures? Ce mot demeurer qui est si fréquent dans l'évangile de Jean. Demeurer. Qui demeure en moi? C'est-à-dire que là, il y a quelque chose, oui. C'est d'une autre manière, vous savez, dans la navigation, hein, on dit l'ancre. Hein, l'ancre, voilà, qui arrime quelque part. Mais à quoi tu es arrimé en définitive? Hein, même s'il y a après de la navigation à faire, hein, ou sur quoi ça repose. Donne-nous, Seigneur, d'entrer toujours plus dans le mystère de ton Eucharistie. Il reste un jour un mystère, mais tu nous appelles tout simplement, voilà, à recevoir ton désir, à faire que nous sommes, voilà, des invités, et que nous sommes appelés à devenir des invités invitants. Hein, autrement, on laisserait se prolonger un peu là, ce que j'ai pu dire, mais l'essentiel, voilà, le récit de l'institution d'un bout à l'autre.